Auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu, une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés en direct par 31 radios partenaires à travers le Niger, et ce du lundi au vendredi entre 17h et 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15. Ce soir, le thème principal autour duquel tourneront nos échanges durant 45 minutes, c'est « Comprendre la sécurité sociale au Niger ». La sécurité sociale, qu'est-ce que c'est et pourquoi? À qui elle profite? Quand et comment jouir de ses avantages? Quelle est la mission phare de la Caisse nationale de sécurité sociale? Comment est-ce que la Caisse garantit la sécurité sociale au Niger? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité dans ce studio Hamani Hassan, responsable de la cellule communication et qualité de la Caisse nationale de sécurité sociale. Bonsoir Hassan Hamani.
Bonsoir.
Et avec nous également dans ce studio, Moutari Malamidi, deuxième secrétaire général adjoint de la CDTN, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger. Bonsoir Moutari.
Bonsoir.
Merci à vous d'avoir honoré notre invitation à la présentation de cette émission à Alassane Kouzi Mahamoud. Bonsoir à tous. Ce soir, nous parlons de sécurité sociale d'une manière générale et surtout celle qui est assurée par la Caisse nationale de sécurité sociale. Au Niger, le régime de la sécurité sociale pour les travailleurs du secteur formel est scindé en deux composantes indépendantes l'une de l'autre. D'un côté, l'on retrouve le Fonds national de retraite, FNR, où sont systématiquement affiliés les fonctionnaires salariés permanents de l'État. Une nouvelle réforme de ce Fonds national de retraite a donné naissance à la Caisse autonome des retraites du Niger, CARENI. De l'autre côté, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale qui s'adresse aux salariés du secteur privé, formel, du parapublic et aux agents de l'État non fonctionnaires. Et c'est justement ces derniers points qui nous intéressent ce soir dans le forum. Il convient de noter que le dit régime nigérien de sécurité sociale des travailleurs salariés comporte trois branches principales qui sont les prestations familiales, les accidents du travail et les maladies professionnelles et les pensions. Nous allons tenter d'avoir d'amples éclaircissements sur tous ces aspects cités et bien d'autres durant les 45 minutes que nous passerons ensemble. Sans plus tarder, nous allons débuter avec vous, M. Hamani Hassan. Vous êtes chargé de communication, je le disais, à la Caisse nationale de sécurité sociale. De prime abord, dites-nous qu'est-ce que c'est que d'avoir la sécurité sociale.
Merci.
Et pourquoi la sécurité sociale?
Je voudrais juste rectifier. En fait, je ne suis pas chargé de communication, mais je suis le responsable de la cellule communication et qualité. Et la sécurité sociale est une des composantes du dispositif national de protection sociale. Or, la protection sociale est très, très vaste. Elle concerne plusieurs niveaux. Vous avez la première composante qui est la santé publique. Il y a la deuxième composante qui est l'action sanitaire et sociale. Il y a l'aide sociale. Vous avez les assurances sociales connues sous le nom de sécurité sociale, qui est gérée par la CARENI et la Caisse nationale de sécurité sociale. Et vous avez les assurances privées qui sont dévolues à des personnes physiques ou morales et qui a un but purement commercial. Qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale? C'est un ensemble de mesures destinées à protéger le travailleur en assurant particulièrement la couverture d'un certain nombre d'éventualités que vous avez citées, qui sont contenues dans les trois branches que gère la Caisse, notamment la branche des prestations familiales et de maternité, la branche des accidents de travail et maladies professionnelles, et la branche vieillesse, invalidité et décès. Il faut préciser que la sécurité sociale ne s'adresse uniquement qu'aux travailleurs définis à l'article 2 du Code du travail. Et cet article 2 donne la définition du travailleur. L'article 2 dit que est considéré comme travailleur, quel que soit son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée. Il convient également de noter que la notion de travailleur salarié s'étend aux agents fonctionnels régulièrement détachés auprès des entreprises publiques ou privées. Il en est de même de certaines catégories qui sont assimilées à ces travailleurs. Il s'agit particulièrement des apprentis et des stagiaires. Chaque fois que vous avez un contrat de travail, sachant que le contrat de travail, c'est trois éléments essentiels. C'est d'abord une prestation de service, une rémunération et travailler sous l'autorité
d'une personne
physique ou morale. À partir du moment où ces trois critères-là sont réunis, eh bien, vous êtes couvert par la sécurité sociale.
Merci. Nous revenons à vous, M. Moutari. Je le disais, vous êtes deuxième adjoint du secrétaire général de la CDTN. Quelle analyse brève vous faites de manière générale de la sécurité sociale ici au Niger?
Bien, donc je remercie le studio Kalangou. Et comme vous le savez, je pense en train de contribuer à la sensibilisation de l'ensemble de la masse laborieuse nigérienne. Ce qui, dans ce même ordre d'idée, nous voilà aujourd'hui ensemble avec les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale pour davantage essayer d'aider tous les travailleurs salariés, comme il l'a dit, comme il l'a défini, effectivement, pour que comment bénéficier de cette sécurité sociale et comment, en tout cas, tout ce que vous venez de décrire, tel que les différentes branches des prestations familiales, des accidents de travail, la branche de retraite, entre autres, en tout cas, de comprendre, effectivement, tout son contenu pour que, effectivement, ces salariés-là puissent bénéficier régulièrement de leurs droits vis-à-vis de la sécurité sociale. En tant que centrale syndicale, c'est une de nos préoccupations. Ça fait partie, effectivement, donc du rôle de la structure syndicale qui est le rôle d'éducateur, de formateur. Donc, on a cette mission, effectivement, en tant que centrale syndicale, de sensibiliser l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des fonctionnaires et l'ensemble de tous les salariés nigériens à comprendre, effectivement, le système de sécurité sociale, la Caisse nationale de sécurité, ses objectifs, ses missions, telles que définies par le responsable de la cellule de communication de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Et est-ce que vous avez l'impression que, effectivement, les travailleurs salariés ont vraiment cette compréhension qualitative de leurs droits?
Bon, il y a énormément de difficultés pour les salariés, effectivement, à percevoir ces droits, parce que la plupart, ceux qui sont encore dans les grandes villes, je peux comprendre, et ils n'ont pas tellement de problèmes puisqu'ils peuvent aller directement dans les guichets de la caisse, que ce soit à Niamey, que ce soit à l'intérieur. Mais ceux qui sont en zone rurale, je vous assure qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont des difficultés à bénéficier du système de sécurité sociale nigérien. Notamment, même la constitution de dossiers pension, deux fois, tant que vous ne déplacez pas, c'est difficile en tout cas à ce que ces travailleurs-là puissent constituer régulièrement leur dossier. Le dossier de prestations familiales, c'est la même chose. Donc, normalement, les chefs du personnel qui sont dans les entreprises, qui sont dans les directions régionales où il y a des auxiliaires de l'État qui sont dans les recoins du Niger, tels que, par exemple, je prends le cas des pileuses qui sont dans les cantines scolaires, vous avez des manœuvres, des chauffeurs qui sont dans les inspections primaires, qui sont dans les communes rurales, qui sont dans les départements. Je vous assure qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés. Heureusement que les directions régionales, la caisse, entreprennent certaines missions, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous recevons encore des réclamations de ces gens par rapport à leurs dossiers qu'ils ont déposés au niveau de la direction. Normalement, notamment les dossiers pension, puisque les dossiers de prestations familiales sont gérés dans les différentes directions régionales de la CNSS.
Mais est-ce que vos représentants dans les régions ne s'impliquent pas notamment?
Mais effectivement, c'est au regard des rapports qu'ils nous envoient régulièrement. Effectivement, donc nous renvoient généralement, si je dis, c'est par rapport surtout aux dossiers de pension ou en cas d'accident de travail. Mais les prestations familiales, c'est eux qui gèrent dans les directions régionales avec les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale régionaux, voire départementaux, là, il y a des agences. Mais le plus gros problème que nous constatons, c'est au niveau des services pension. Quand ils envoient des dossiers à Niamey, ça peut prendre quelqu'un qui part à la retraite, par exemple, en janvier 2017. À la date d'aujourd'hui, il y en a encore certains qui n'ont pas encore eu leur pension de premier trimestre au regard des différents dossiers, notamment les auxiliaires de l'État.
Voilà. Bien. Nous allons revenir à vous, Hassan Amani, pour comprendre ce que c'est que la mission phare même de la Caisse nationale de sécurité sociale, avant de savoir comment est-ce qu'elle garantit la sécurité sociale aux travailleurs salariés.
Vous savez, de manière générale, la mission d'un organisme de sécurité sociale, c'est de payer des prestations. C'est ça la mission générale. Maintenant, pour atteindre cet objectif, il y a des branches qui ont été confiées à la Caisse, qui est un établissement public à caractère social. Dans ce cadre-là, la mission qui a été donc confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est de gérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les trois branches. Et ces trois branches-là, pour pouvoir mieux les gérer, il y a une organisation administrative qui a été mise en place. Vous avez la direction générale qui pilote. Et cette direction générale-là, elle est sous le contrôle d'un conseil d'administration tripartite où siègent les travailleurs, les employeurs et les représentants de l'État. Et cette composition tripartite n'a pas été faite au hasard par le législateur. C'est pour que les travailleurs eux-mêmes, pour qui les prestations sont destinées, puissent être partie prenante des grandes orientations à donner
à la caisse.
Tout à l'heure, M. Moutari parlait des difficultés. C'est vrai.
Comment vous gérez justement ces quelques difficultés qui surviennent souvent, notamment de la
Je reviens là-dessus. Il y a beaucoup d'efforts dans l'organisation pour faciliter, parce que pendant longtemps, effectivement, ces services-là, en fait, l'essentiel des fonctions, notamment les branches, les trois branches qu'on a citées, n'étaient pas décentralisées. Aujourd'hui, premier acte, c'est que tout ce qui concerne le paiement des prestations familiales de maternité a été totalement décentralisé. Il y a la branche des pensions qui l'a posée, effectivement, qui a connu également une évolution. Parce que pendant longtemps, le traitement des dossiers était fait manuellement. Aujourd'hui,
ce traitement est centralisé à
Niamey. Maintenant, ce traitement a connu une évolution positive qui a permis de gagner du temps en termes de délai, en termes de tout. C'est vrai, on continue à dire qu'il y a des problèmes, c'est vrai. Nous ne disons pas que nous sommes opérationnels à 100%, mais il faut dire déjà qu'il y a une évolution parce qu'aujourd'hui, le traitement est complètement informatisé, ce qui est très important parce que les dossiers qui sont déposés dans les délais sont liquidés également dans des délais raisonnables. Parce qu'avant, il était fréquent de voir des dossiers traîner de 6 à presque 12 mois sans être traité. Aujourd'hui, il faut dire que ce délai a été considérablement réduit, vraiment à la bonne satisfaction donc, de nos retraités. C'est vrai, il a posé le problème d'un certain nombre de retraités qui sont au niveau des villages et des trucs. Il faut dire ici que c'est une responsabilité partagée. Pourquoi je dis que c'est une responsabilité partagée ? Nous avons constaté que beaucoup de travailleurs en fin de carrière ne se préoccupent pas de déposer leur dossier. Et quand vous ne prenez pas les soins de déposer vos dossiers de retraite à temps, il est clair que cela va se répercuter sur le paiement des premiers droits. D'ailleurs, à ce niveau, je voudrais insister sur un délai très important. Le travailleur qui va à la retraite doit déposer son dossier dans les 6 mois qui suivent sa date de départ. Parce que s'il ne le dépose pas, je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un qui part le 1er janvier, il a jusqu'au 30 juin pour déposer son dossier. Passé ce délai-là, non seulement il perd le rappel de 6 mois, mais s'il dépose le 1er juillet, ses droits vont commencer à courir à partir du 1er août. Maintenant, par rapport aux autres problèmes, tout naturellement, quand je disais que c'est des responsabilités partagées, il n'y a pas seulement que le travailleur qui doit faire un effort pour déposer. Vous avez travaillé pour un employeur, au moins que l'employeur prenne le soin de faire la décision de départ à la retraite du travailleur, qu'il s'assure que le dossier a été bel et bien constitué et déposé à la caisse, avant que le travailleur ne quitte son entreprise. Si tout le monde faisait comme ça, je pense que le problème qu'il a soulevé, en tout cas, sera moindre par rapport aux difficultés que nous sommes en train de rencontrer.
Monsieur Moutari, Madame Idi, dites-nous, Moutari, qu'est-ce qui peut expliquer peut-être ce retard qu'on constate souvent au niveau des travailleurs qui sont partis à la retraite à pouvoir constituer leur dossier à temps?
Effectivement, il faut reconnaître, là aussi, il y a effectivement des responsabilités. D'abord, de la part du travailleur, surtout de son service. Puisque normalement, le responsable du personnel qui se trouve, que ce soit dans les directions régionales de l'intérieur, de l'administration publique ou dans les entreprises, normalement, chaque service du personnel d'une entreprise ou d'un service qui a des auxiliaires ou qui a des travailleurs salariés, il doit disposer de l'ensemble des documents de la Caisse nationale de sécurité sociale. Que ce soit les demandes de prestations familiales, qui concerne le paiement des prestations, que ce soit la demande des pensions de vieillesse, d'invalidité ou d'orphelin ou de veuve, mais s'ils n'en disposent pas, ils doivent se procurer à la CNSS et mettre à la disposition de leur chef du personnel. Donc, cela dit, le travailleur, c'est généralement, si vous prenez quelqu'un qui part à la retraite, on peut constituer son dossier bien avant son départ, ça c'est clair et net. C'est-à-dire, la demande de pension, plus les pièces à fournir, donc, entre autres, soit les pièces d'état civil, les pièces d'état civil des enfants, des épouses, les différents certificats, etc., etc. Surtout ceux qui ont fait plusieurs emplois. Parce que les travailleurs, chaque employeur, il doit son livret devait être signé. La date d'entrée, la date de sortie, la date d'embauche et la date de débauchage. Plus les certificats de travail. Sous l'ensemble de ce document, c'est pas tout salarié qui les conserve. Et comme vous le savez, l'employeur, quand il dépose les déclarations trimestrielles au niveau de la caisse, c'est des comptes qui sont tenus. Donc, quand le dossier est déposé au niveau effectivement de la caisse nationale, on avait compris qu'effectivement, il va falloir reconstituer la carrière de ce travailleur-là. S'il a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, il faut qu'on vérifie tous les trimestres sont déclarés à la caisse. S'il y a des poches, il va falloir que le service qui s'occupe donc de reprendre le compte individuel, deux fois qu'il passe même dans les services de l'employeur, etc., pour avoir toutes les informations et maintenant faire l'ensemble du dossier complet, transmettre à la direction de la
gestion des assurances. Et tout cela peut prendre du temps.
Donc, tout ça, effectivement, ça peut prendre du temps.
Vous voulez rebondir? Allez-y, rapidement.
Il y a un volet très important qui vient de souligner, c'est la déclaration permanente pendant toute la carrière du travailleur.
Donc, cela nous amène d'abord à savoir, on sait que tout travailleur salarié donc doit cotiser. Alors, justement, quel est le sens même de cette cotisation et quels sont les taux et la charge des cotisations?
Merci. Avant de parler d'abord des taux de cotisation, il y a quelque chose de très important qu'il faut quand même préciser, c'est la notion d'employeur même. Au fond, qui est employeur? Parce qu'on utilise le terme comme ça. Il faut que chacun sache qui est employeur. Et à ce niveau, je renvoie donc à l'article 3
du Code du travail.
Que dit cet article-là? Cet article stipule que doit être obligatoirement affilié à la caisse tout employeur public ou privé qui utilise les services d'un ou plusieurs travailleurs au sens de l'article 2 que j'ai cité tout à l'heure du Code du travail, exerçant ses activités sur le territoire de la République du Niger. Cette affiliation consiste tout simplement à l'employeur d'aller vers la caisse, retirer un imprimé qu'on appelle imprimé d'affiliation, le remplir et joindre le registre du commerce ou le NIF et renseigner cet imprimé-là dès qu'il embauche son premier salarié. Et l'affiliation, en fait, c'est une opération administrative qui permet d'identifier l'employeur et de lui donner un numéro d'employeur. Et sur ce numéro-là, c'est sur ce numéro que vont être consignées toutes les cotisations versées, les déclarations des cotisations versées qui vont passer donc en débit et les paiements effectués période par période.
Donc là, c'est l'une des obligations de
l'employeur. Ça, c'est la première obligation de l'employeur. Maintenant que l'employeur est connu, il dispose de 8 jours pour pouvoir immatriculer son travailleur. L'immatriculation n'étant rien d'autre que de faire identifier le travailleur. Et cette identification est matérialisée par la délivrance d'un livret d'assurance qui est unique pour toute la carrière. C'est-à-dire, à partir du moment où vous faites ce livret-là, vous pouvez changer une fois d'employeur, plusieurs employeurs, c'est toujours le même livret qui va servir de support de déclaration pour l'employeur. Il suffit tout simplement que dès que le travailleur vient, il prend le soin de le faire signer par son premier employeur, celui qui l'a déclaré. Le jour où il va quitter, il prend également le soin de le faire signer.
Par son employeur.
Par son employeur, donc date d'entrée, date de sortie. Quand il va aller chez un autre employeur, il procède de la même manière, date d'entrée et date de sortie. Et il s'assure que tous ses employeurs chez qui il est passé, qu'il a été régulièrement déclaré à la caisse. Et pour ce faire, nos services disposent de toutes les informations, dont notamment le compte individuel, où tout travailleur, et c'est d'ici d'ailleurs, je lance un appel à tous ces travailleurs-là, allez-y vers les structures de la caisse, ils vont vous sortir votre situation de compte qui vous permet de vérifier que vous avez été déclaré ou pas. Et à partir de là, c'est déjà une étape importante qui permet aux travailleurs de suivre régulièrement sa carrière et d'être sûr que partout où il est passé, il a été déclaré à la caisse. À partir du moment où l'employeur s'acquitte régulièrement de ses obligations, il est clair que le paiement des droits ne posera pas de problème. Voilà.
Bien. Nous revenons à vous, Moutari Malamidi, par rapport à cette question de cotisation.
Voilà.
Est-ce que justement ça fait partie des problèmes souvent soulevés par les travailleurs?
Exactement. Puisque ce qu'il faut dire... Par rapport donc à ces cotisations sociales-là que les employeurs doivent verser. Puisque lui, le travailleur, on prélève. C'est l'employeur qui prélève sur son salaire. Les 5,25%, là, il prélève, c'est à lui de verser.
Parce que c'est lui l'interlocuteur de la caisse, comme l'a dit.
Exactement. Donc, maintenant, effectivement, il est important, à la date d'aujourd'hui, je vous assure qu'on a des assurés qui ne sont pas déclarés. S'ils ne sont pas déclarés, ça veut dire comme s'il y a eu prélèvement, il n'y a pas eu versement à la caisse. Donc, c'est ça, deux fois, qui cause des problèmes. S'il faut payer, par exemple, les prestations familiales, il faut qu'on vérifie si l'employeur a versé les cotisations, le compte individuel est alimenté. Mais s'il n'est pas alimenté, il faut qu'on puisse renvoyer les suivis chez son employeur. Des fois, surtout que s'il a fait des mois ou même des années sans qu'il ait son livret d'assurance. On a vu des employeurs, c'est pas leur problème, ils utilisent quelqu'un, mais lui faire un livret, ça ne le regarde pas. Il faut que le travailleur lui-même se débrouille pour avoir le livret d'assurance, le faire signer. Maintenant, le livret, S'il a fait presque un an sans avoir le livret, le jour d'avoir le livret, il faut qu'on vérifie est-ce que toutes ces cotisations sont versées. Puisque c'est sans ces cotisations-là, il ne peut pas avoir les prestations familiales. Le jour où il va aller à la retraite, tant qu'il n'y a pas ces périodes-là déclarées à la caisse, ça va créer un vide pour lui. Donc vraiment, il y a énormément de choses à ce niveau. Donc les employeurs, nécessairement, puisqu'ils sont responsables de l'activité professionnelle de ces travailleurs-là, il faut qu'ils versent régulièrement le compte, tout ce qu'ils ont prélevé sur leur salaire, plus leur part, qu'ils versent régulièrement à la caisse, conformément donc aux exigences de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Bien. Cela nous amène donc justement à poser la question à Mani Hassan. En ce qui concerne la cotisation, quels sont les taux et la charge des cotisations?
Oui, en fait, ces taux-là donc, sont fonction des branches gérées. En ce qui concerne la branche de prestations familiales et de maternité, donc, le taux est de 8,40% sur un salaire mensuel et sur un salaire mensuel plafonné à 500 000.
Et le
plancher, c'est 30 047 francs. En fait, c'est le SMIC.
Le SMIC.
C'est le SMIC.
Le salaire minimum.
Minimum garanti. Donc, cette cotisation est à la charge exclusive de l'employeur. Le travailleur ne participe pas. Il n'y a pas de prélèvement à faire sur le salaire.
8,40%.
Pour couvrir les prestations servies par cette branche, en fait, qui sont des prestations d'abord liées à la naissance, des prestations destinées à l'entretien de l'enfant et des prestations de maternité qui concernent spécifiquement les femmes salariées. Maintenant, vous avez la deuxième branche, c'est la branche des accidents de travail et maladies professionnelles. Là-bas également, c'est l'employeur qui supporte intégralement la cotisation, qui est de 1,75% dans les mêmes conditions, c'est-à-dire plafond 500 000 mensuels et un plancher de 30 047 francs. Et vous avez enfin la branche des retraites où participe, c'est la seule branche où participe le travailleur pour améliorer son niveau donc de revenu de remplacement qui est appelé retraite, donc qui est de 11,50%. Sur les 11,50%, l'employeur supporte 6,25% et le travailleur supporte 5,25%. Ce qui fait 11,50% au total. Si vous voyez, l'employeur prend au total 16,40% et le travailleur 5,25%, soit un taux global de 21,65%
de cotisation.
Et c'est ces cotisations qui permettent de financer donc, les différentes branches.
Comment alors l'employeur s'acquittera-t-il de ses obligations? Et comment vous, la caisse s'assure justement de...
L'employeur est tenu, c'est une obligation légale pour l'employeur de déclarer périodiquement, en fonction des effectifs qu'il gère. S'il gère des effectifs de moins de 20 salariés, il fait une déclaration trimestrielle sur un imprimé spécial de la caisse, qu'on appelle déclaration trimestrielle. Cet imprimé est accompagné donc de la liste nominative des travailleurs utilisés avec leur numéro de sécurité sociale, nom et prénom et les salaires déclarés pendant le trimestre de référence. Donc s'il s'agit du premier trimestre, c'est le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars. J'insiste beaucoup là-dessus parce que là, les informations contenues sur ces trucs doivent être vraiment minutieusement portées pour éviter des erreurs. Pourquoi cela? Parce que la caisse a besoin de savoir pour qui l'employeur cotise. Donc à partir de l'identifiant, nous avons vu le numéro de sécurité sociale, le nom et prénom de l'assuré, mais également besoin de savoir combien de temps le travailleur a travaillé, la durée de travail dans le mois, donc qui est de maximum de 30 jours. Donc, il va de 1 à 30 jours.
Oui.
Toutes ces informations sont importantes.
Et son salaire aussi.
Et son salaire aussi. Parce que c'est le salaire qui permet, qui va servir de base de calcul de certaines prestations. Donc, si ces informations ne sont pas contenues et que nous ne les avons pas, tout naturellement, vous voyez le blocage qui peut se situer le jour où les conditions sont créées pour payer les prestations. Donc, nous avons besoin de toutes ces informations. C'est cet imprimé qui doit être accompagné donc du paiement. Et je précise à ce niveau-là, pour faciliter justement cette déclaration-là, pour faciliter vraiment aux employeurs le paiement de ces trucs, dans toutes les structures de la caisse aujourd'hui, que ce soit au niveau de Niamey ou ici, nous disposons de services comptables et financiers pour qu'ils enregistrent donc ces différentes opérations. C'est vraiment important à signaler. Avant, ceux qui n'étaient pas là avant.
Moutari Malamidi, deuxième secrétaire adjoint de la CDTN. Alors, quelle est la réalité de ce qui s'est fait réellement de manière pratique sur le terrain?
Bien,
en ce qui concerne justement la déclaration trimestrielle dont qui est obligatoire pour tout employeur.
Oui, tout à fait. Effectivement, je reviens encore tout à l'heure parce que je disais, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est les assurés eux-mêmes qui ne comprennent pas que dès qu'ils sont engagés, ils doivent d'abord avoir un livret d'assurance. Beaucoup ne le savent pas. Donc, tant qu'il n'y a pas quelqu'un à côté pour les sensibiliser, ce n'est pas leur problème. Il y a d'autres qui font, je dis, un an, deux ans, ils ne savent même pas qu'il y a des... Moi, personnellement, j'ai fait une certaine expérience parce que j'étais en mission à l'intérieur du pays, dans la région de Diffa. On a vu une matrone et puis une pileuse dans une cantine qui est partie à la retraite, mais elle n'a même pas de livret de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, elle a fait sa carrière, elle a même des enfants parce que son mari, c'est un cultivateur. Elle n'a rien perçu comme prestation familiale. Elle n'a rien eu. Donc, c'est maintenant au moins, elle perçait son dossier. On était de passage, disait que ah voilà, j'ai pas pu. Elle est venue, elle cherche comment on fait la caisse.
Elle n'a jamais eu de livret d'assurance.
Elle n'a jamais eu de livret d'assurance à ce moment-là. Pour voir le chef de service personnel, puisque de l'inspection primaire à l'époque, donc de DIFA, pour que rapidement qu'on puisse faire le livret avec, en collaboration avec le directeur régional. Rapidement, il a eu ce livret. On a constitué son dossier pour envoyer à l'acte. Heureusement que c'est une auxiliaire de l'État. Son compte, le problème ne se pose pas. Elle a son matricule, elle a tout. Donc, le problème ne se pose pas. Elle a pu bénéficier quelques mois après de sa pension. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont, surtout dans la ville de Niamey, je vous assure qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans des petits services. Voilà, mais malheureusement, ils ne sont pas déclarés à la caisse. Et même s'ils sont, des fois, on n'envoie pas leur nom. Donc, avoir même les livrets d'assurance, deux fois, si vous réclamez, je vous assure qu'on vous licencie. On a vu des petits services, si vous réclamez quelque chose de la caisse, on vous radie. On vous dit non, ça, là, lui, il veut nous créer des problèmes avec la caisse parce que nous, on n'a pas de cotisation à lui verser. Donc, vraiment, il y a énormément de problèmes. Nous faisons certes des sensibilisations en tant que centrale, mais surtout avec une collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale, mais je vous assure qu'on s'est rendu compte qu'il y a du travail à faire. Nous avons des pinces sur la planche au niveau de la CDTN et je vous assure que récemment, encore, nous avons fait une réunion avec un certain nombre de partenaires par rapport même à la question même de la retraite pour voir comment. Puisque nous avons constaté que les auxiliaires de l'État, ceux que le FNR ou bien du moins le service sort du ministère des Finances, prélèvent que sur leur salaire de base, ce qui n'est pas normal. Vous voyez, or, c'est le salaire brut, à l'exception de certaines indemnités. Qui doivent être prélevées. Ça, c'est au moins au niveau de l'État. Ça, on a constaté ça. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions avec le service SOD et la caisse pour trouver une solution. De l'autre côté aussi, c'est la même chose. C'est les travailleurs salariés. Il y a certains, on minimise leur salaire par rapport donc à la déclaration. Vous voyez, heureusement que, des fois, le service contrôle de la caisse qui doit faire tout ce travail pour qu'effectivement, les travailleurs salariés soient de leurs droits. Ils partent à la retraite. Reçoivent la plus petite pension, qui est à peine de 54 300 francs par trimestre. Et vous, aujourd'hui, vous allez travailler 30 ans chez Kalangou, on vous regarde à la caisse, vous partez à la retraite, on vous donne 34, vous allez dire qu'est-ce qui ne va pas. On vérifie, effectivement, c'est votre salaire soumis. Si vous touchez 100 000, on vous déclare 45 000 ou 60 000 parce que ça dépasse le SMIC. Et il y a un problème. Donc ça, effectivement, c'est des petits problèmes que nous recensons, que les travailleurs salariés, en tout cas, viennent chez nous et on a l'obligation d'aller se renseigner à la caisse.
Bien. Je voudrais vous poser une petite question, Hassan Amani Hassan, avant de poursuivre sur les droits de l'employé. Comment se fait-il que quelqu'un, un employé, puisse ne pas avoir de livret, puisse être déclaré déjà par son employeur au niveau de la caisse et que ce dernier ne puisse pas avoir son livret d'assurance?
Oui, en fait, il a soulevé un problème très important là, la négligence en fait soit de l'employeur ou du travailleur. Malgré cette négligence, la loi a fait une ouverture. Quand l'employeur lui-même ne fait pas cette immatriculation, le travailleur peut le faire. La loi l'autorise à le faire.
À s'immatriculer.
Et à ce moment-là, il peut aller au niveau de nos services. À partir du moment où il a la certitude qu'il travaille chez un employeur qui refuse de le déclarer, il peut le faire. N'oublions pas que la caisse ne travaille pas dans son environnement seul. Il y a d'autres structures avec lesquelles nous travaillons, telles que l'inspection du travail, qui gère les conflits du travail. Quand un employeur refuse catégoriquement, non seulement le travailleur peut le faire, il peut venir à la caisse avec les renseignements que donc son acte de naissance plus l'imprimé d'immatriculation, et là je précise qu'il faut un acte de naissance légalisé si c'est une copie. Là, et cette opération elle est gratuite, il n'y a pas de frais à payer, j'arrive. Donc l'employeur peut vouloir le poursuivre, il est en droit de porter l'affaire devant d'abord la représentation syndicale, mais également devant et se faire assister par ces structures syndicales, mais également devant l'inspecteur du travail. Et ça aussi, c'est un appel que je fais. Il y a un dispositif national qui protège les travailleurs. Il faut que les travailleurs le sachent.
Un employeur peut se permettre de... Il peut se lever un beau matin et dire que parce que vous êtes parti à la caisse, parce qu'on considère la cotisation sociale comme une charge, vouloir l'attaquer. Mais la loi le protège. À condition, bien sûr, qu'il aille vers les structures compétentes.
Lesquelles ?
L'inspection du travail, en premier lieu. Mais également se faire assister par ces structures représentatives du personnel. Notamment les délégués syndicaux ou les délégués du personnel. Vous voyez, c'est important. Je voudrais surtout dire que même quand l'employeur essaie de tricher, nous disposons d'un corps de contrôleurs qui contrôle au moins une fois tous les 3 ans les employeurs pour s'assurer qu'ils déclarent bien et que les renseignements qu'ils fournissent. Non obstant cela, je précise et je répétise et je le rappelle, tout travailleur, je dis bien tout travailleur qui est en possession de son livret d'assurance, peut se rendre au niveau de nos services pour demander son compte individuel afin de vérifier les salaires qui ont été déclarés par l'employeur.
Précisément au niveau de quel service ?
Au niveau de tous les services, on peut faire cette consultation. Au niveau de tous les services.
Il suffit de se présenter avec son livret.
Il suffit de se présenter avec son livret, on va vous sortir ce compte-là qui va vous permettre de voir si votre employeur est sérieux ou pas. Maintenant, il y a un problème qu'il a soulevé. C'est surtout le problème de l'économie informelle. Parce que vous avez beaucoup de travailleurs salariés qui sont dans ce domaine-là et qui ne sont pas déclarés. Ils ne sont ni déclarés, ni connus au niveau de la caisse. Et à ce niveau, il faut préciser qu'il y a 2 catégories de travailleurs en fait qui sont intéressés. Il y a les travailleurs indépendants. Tout naturellement, c'est des gens qui travaillent pour leur propre compte, pour lesquels, pour le moment, nous n'avons pas de protection spécifique. Mais il y a des travailleurs salariés au vrai sens de l'article 2.
Ouais.
Qui sont dans ces secteurs, qui travaillent soit dans des entreprises familiales, soit dans des petites et moyennes entreprises, telles que les tâcheronnats,
les chauffeurs.
Ils sont là, ils ne sont pas déclarés. D'abord, ils n'ont aucune sécurité sociale. Aucune sécurité sociale. En termes de revenus de salaire, il n'y a aucun respect. Il y a pas mal de choses qu'il faut. Il faut donc, ces gens-là, il leur appartient d'aller se faire déclarer, même si l'employeur le refuse.
Je voudrais qu'on attaque rapidement les questions des droits auxquels le travailleur salarié a droit. Notamment, on avait parlé des 3 branches, la branche prestation familiale, accident ou maladie professionnelle et pension. Alors, comment et dans quelles conditions l'employeur rentrera-t-il en possession de ses droits ?
S'agissant d'abord de la première branche, la branche des prestations familiales et de maternité. Et ces 2 éventualités-là sont versées, en ce qui concerne les prestations familiales, dès la grossesse de l'épouse, à partir du 3e mois. Donc, il y a chaque femme, je dis la conjointe du salarié, doit présenter au niveau de la caisse, en s'assurant que son mari, bien sûr, a été immatriculé.
Et que
l'ouverture déjà des droits, donc là, les conditions sont réunies.
Donc c'est présenté.
Et à ce moment, il y a un certain nombre de conditions. On dit qu'il faut avoir un enfant à charge. Il faut avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs pendant au moins 6 mois. Et également, pour chaque mois de travail, il faut avoir 18 jours de travail. À partir du moment où vous avez 18 jours, c'est comme si vous avez travaillé pendant 1 mois entier. Si ces 3 conditions sont réunies, vous déposez votre dossier. Maintenant, quelles sont les prestations qui sont versées ? Il y a d'abord les prestations liées d'abord à la naissance. C'est ce que nous appelons allocation prénatale, allocation de maternité. Il y a une prime d'encouragement à la naissance qui est même controversée. C'est l'allocation au foyer du travailleur qui est versée aux 3 premiers enfants issus du premier mariage. Sauf si il y a eu décès subséquent ou que la première épouse est décédée. Cela pose un problème dans des sociétés polygames comme le Niger, où on dit, bon, c'est les enfants de la première épouse, les 3 premiers enfants. Même si vous faites un premier mariage, vous avez 15 enfants, la deuxième femme vient, elle vous fait d'autres enfants. Ces enfants-là n'ont pas droit à cette allocation-là. Ouais. Maintenant, il y a maintenant l'allocation destinée à l'entretien de l'enfant, c'est ça, l'allocation familiale. Donc l'entretien et l'éducation. Toutes ces allocations-là sont versées aux mains de celui qui a la charge effective de l'enfant. Naturellement, dans notre société, c'est la femme qui s'occupe de cette charge et tout, d'où la femme a été désignée comme attributaire.
Est-ce qu'on peut avoir un peu les montants pour la
grossesse ? En ce qui concerne l'allocation au foyer de travail, elle fait 13 500 pour chaque naissance distincte jusqu'aux 3 premiers enfants. L'allocation au foyer de l'allocation prénatale, qui est en fait une allocation destinée à obliger la femme à accoucher, à se faire assister médicalement, pendant les 9 mois de grossesse. Là aussi, elle est d'un montant de 13 500. Vous avez l'allocation de maternité que les femmes connaissent très bien. Hein. Dès que vous leur dites coup d'une table ou bien table bonorou, ça, elles connaissent ça. Elle fait 15 000 francs. Et il y a l'allocation maintenant familiale qui est versée donc, pour les enfants à charge. Donc, il y a une première d'abord tranche d'âge, dans des limites d'âge bien précises. D'abord, la première limite, c'est 16 ans, que l'enfant aille à l'école ou pas, donc jusqu'à 16 ans. Et après 16 ans, il faut fournir donc, régulièrement. Cet âge-là est reporté à 21 ans pour les enfants qui poursuivent régulièrement leurs études. Et cet âge est également reporté à 18 ans pour les apprentis. Et il y a les handicapés également qui sont traités au même titre que les enfants, donc les autres enfants jusqu'à l'âge de 21 ans. Voilà. Et à côté maintenant, il y a les prestations de maternité qui sont destinées uniquement aux femmes salariées. Ces prestations concernent deux catégories. Vous avez l'indemnité journalière ou demi-traitement, où pendant toute la période de grossesse donc, de la femme et son repos médical, donc, à partir donc de son repos médical sanctionné par une décision délivrée par le truc, la femme dispose d'une protection de la caisse sur une période de 14 semaines, qui part à partir de la date qui correspond environ au 7e mois de grossesse. À partir du 7e mois de grossesse jusqu'à l'accouchement présumé, ça fait 6 semaines qui est prise en charge, plus 8 semaines après, ça fait 14 semaines. Pendant ces 14 semaines-là, si, et là aussi, il faut que la femme remplisse au moins la condition du stage, c'est-à-dire de durée, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait travaillé au moins pendant 6 mois consécutifs. C'est les mêmes conditions que les prestations. Donc, la deuxième catégorie, pendant cette période de 14 semaines-là, la femme a droit à 50% et l'employeur prend 50%. Vous avez maintenant la branche des accidents de travail qui sert tout naturellement les accidents de travail, maladies professionnelles, et la branche de retraite qui est servie pour la vieillesse d'abord, donc à l'âge de 60 ans, la femme peut partir à 55 ans, et vous avez en cas de décès, le conjoint survivant s'il y a un enfant à charge, ou les orphelins, donc dans les mêmes conditions définies au niveau des prestations familiales et la veuve.
Bien. Voilà. Moutar Malamidi, rapidement, quelle appréciation vous faites des prestations données, notamment pour cette branche prestations familiales?
Bon, pour la branche de prestations familiales, vraiment en tant que travailleur salarié, je sais que c'est quelque chose qui est servi. Il n'y a pas tellement de problèmes à ce niveau, au niveau des travailleurs. Tous ceux qui ont des femmes dès la première grossesse, hein, déjà, ils commencent à percevoir les allocations prénatales et tout ce que cela s'ensuit. On n'a pas tellement beaucoup de problèmes à ce niveau. C'est surtout le problème qui se pose. Tous ceux qui perçoivent des prestations, là, il faut que leur compte soit arrivé. Tout à l'heure, le responsable a celui de parler. Le problème qui se pose au Niger, on a nos propres cadres qui nous cotisent. Bon, vous avez des députés, ils ont des trucs, vous avez des ministres qui ont des gens chez eux, mais ils ne les déclarent pas à la caisse, malheureusement. Vous voyez, donc tout ça, c'est des choses. Je m'excuse, hein, je suis syndicaliste, je l'ai dit parce que tout simplement, et les employés qui sont là-bas, entre autres. Mais vraiment, par rapport à ces prestations, on n'a pas tellement de difficultés au niveau de la sécurité sociale, de la perception de ces droits au regard vraiment des centres de paiement. Aujourd'hui, vous partez dans tous les centres de Niamey, il y en a au moins 5 qui sont là. Donc, et les prestations sont payées régulièrement, entre autres. Donc, c'est pour dire que pour les athées, là aussi, j'ai dit que tout à l'heure, au début, je l'ai dit, les accidents de travail sont gérés à Niamey, même si vous êtes à l'intérieur du pays. Donc, vous êtes obligé de vous déplacer deux fois sur convocation de la caisse, etc., entre autres. Non, vraiment, au niveau de sécurité sociale, globalement, pour résumé, on n'a pas tellement de problèmes en dehors de la question de la retraite et surtout de perception des droits. Le problème se pose surtout au niveau des employeurs et de nos propres camarades qui sont des assurés sociaux qui n'ont pas vraiment compris le système de sécurité sociale au Niger.
Voilà. Bien. Pour finir, je voudrais vous poser quelques questions, notamment en lien avec la cotisation. Si, par exemple, quelqu'un qui a cotisé pendant un certain temps et qui arrête à jamais, qui ne continue plus à cotiser, que devient ce que ce dernier a cotisé?
Merci. Que les travailleurs se rassurent. Hein. Tout à l'heure, on parlait du compte individuel. Et c'est pour une traçabilité, une visibilité, en fait, des écritures. Donc, on sait, on a aujourd'hui, notre système d'information nous permet de savoir à tout moment ce que la personne a cotisé.
Maintenant, est-ce que la personne peut rentrer en possession?
Aucun problème. À partir du moment où il remplit les conditions d'octroi de la pension, le problème ne se pose pas. Arrivé, parce que nous avons, vous posez là le problème, beaucoup, comme ils ont perdu leur truc, viennent vers nous, ils disent, mais mes cotisations, est-ce qu'on peut me les rembourser? En fait, les remboursements de cotisations ne sont effectués qu'à deux catégories de travailleurs. Il y a d'abord les non-nigériens, ressortissants d'États non signataires de conventions ou d'un quelconque accord bilatéral. À partir du moment où ils rentrent définitivement chez eux, nous remboursons l'intégralité de leur cotisation et les droits sont définitivement éteints. Deuxième catégorie, ce sont les auxiliaires et contractuels de l'État. Le jour où, par le jeu de concours ou par un acte administratif, ils changent de statut, en sortant de l'auxiliarat ou de leur statut de contractuel pour être agent fonctionnaire, donc ne relevant plus du système de sécurité sociale de la Caisse, ne relevant plus des dispositions du Code du travail pour être géré par le statut général de la fonction publique, là aussi, nous faisons le remboursement. Je voudrais ici attirer l'attention des uns et des autres. Ce remboursement-là, je pense que entre structures, les gens sont en train de trouver vraiment un mécanisme pour pouvoir bien gérer ça. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? Imaginez quelqu'un qui a travaillé en tant qu'auxiliaire pendant 20 ans, à qui il reste juste moins de 15 ans à travailler au niveau de la fonction publique en tant que fonctionnaire. Il est clair qu'il ne va pas remplir les conditions de l'autre côté. Dans ces conditions, si les remboursements sont faits, il faudrait que les remboursements puissent être validés du côté de du ministère des Finances pour tenir compte de son statut pour avoir une pension vraiment conséquente. Malheureusement, on a constaté, les gens se prennent, ils bouffent, et après, quand ils vont de l'autre côté, on leur demande de rembourser pour pouvoir avoir droit parce que, à la pension. Et là, ça pose problème. Et je profite maintenant et j'interpelle d'ailleurs les syndicats pour qu'ils mettent l'accent, pour qu'on puisse trouver, parce que ce remboursement n'est pas réglementé. Il n'y a pas une disposition spéciale qui règle cette question-là. J'espère que les syndicats vont vraiment se pencher sur la question et trouver définitivement une solution, surtout que de plus en plus, avec ce que nous avons comme contractuels et auxiliaires qui restent longtemps avant de changer de statut, imaginez la suite. Donc vraiment, les syndicats sont interpellés à ce niveau-là.
Voilà. Effectivement, c'est pour dire que au niveau effectivement de ce remboursement, nous savons que normalement, la plupart que nous avons de problèmes avec eux, c'est les contractuels de l'éducation. Et je vous assure qu'on a assisté à une scène qui ne nous a pas plu au niveau du mouvement syndical. Et je sais qu'un arrangement par la Caisse nationale de sécurité sociale. Il vous souviendra, en 2007, l'État a remboursé des contractuels leurs cotisations personnelles pour ne pas payer les cotisations sociales de la Caisse. Parce que ça revenait à peu près 3 à 4 milliards que l'État devrait verser. On les a remboursés, 24 000 pour certains, 34 000, 35 000. Ils ont perdu 5 ans de carrière. Maintenant, aujourd'hui, le problème, effectivement, il faut qu'on trouve un mécanisme entre la Caisse et la CARENI pour que directement, tous ceux qui sont intégrés à la fonction publique, qui sont restés contracteurs ou auxiliaires de l'administration, qu'on puisse reverser ce montant directement à la CARENI et leur envoyer, effectivement, donc, leur situation au niveau du FNR et leur situation au niveau de la CARENI pour que ça soit pris en compte. C'est-à-dire valider le service auxiliaire. S'il est resté 5 ans auxiliaire, le jour où il sera le cadre fonctionnaire de l'État, toute cette carrière soit prise depuis qu'il était auxiliaire jusqu'à la date de ce départ à la retraite. C'est ça, effectivement, ce que nous lançons comme appel. Au lieu de chercher à prendre l'argent, rentrer dans le grand marché en 2 heures de temps, le dépenser, ce n'est pas bon du tout, bien. Donc vraiment, il faut que effectivement, que nous saisissions en tant que structure syndicale. Et nous savons que déjà, nous sommes en train de trouver des solutions par rapport à ça. Nous verrons la Caisse et la CARENI pour trouver une solution. Certainement, au niveau de la CDTM, nous sommes là-dessus.
Sur ce prend fin le forum du studio Kalangou de ce soir. Nous étions avec Hamani Hassan, responsable de la cellule communication et qualité de la Caisse nationale de sécurité sociale, et Moutari Malam Idi, qui est deuxième secrétaire général de la CDTN. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Bonsoir. Thank you.